Roue libre.
Florian Marlière.
Salut à tous, bienvenue sur 100% Route, la radio digitale RMC. Pendant les 3 semaines du Tour de France maintenant, c'est vous qui avez la parole dans Roue Libre, la libre antenne. Appelez-nous au 3216, touche 9, pour nous donner votre avis sur la course. On est ensemble jusque 19h pour débriefer la 3e étape avec Tanguy Turgis, directeur sportif de la Groupama FDJ United, qui fait grise mine, son beau sourire. C'est un peu effacé ce soir. Ça va Tanguy ?
Ça va très très bien, mais non, j'ai toujours le sourire, je prends des risques, ça foire, bah c'est comme ça, c'est pas grave.
On en reparlera bien sûr de cette course. Johan Bredov est avec nous à deux doigts de l'abandon, mais il est toujours là, la voix est là. Johan, nous as-tu répondu ou on n'entend pas ta voix ?
Non, si non, ça va pas, tout va bien.
Et Ludovic Duchesne, notre capitaine de route, est là. Ludovic, hello. Touché, mais pas coulé comme Jonas Vingegaard.
Non, non, en plus, Garcia Pierna était pas loin.
C'était vrai, c'était ton pronostic, c'est vrai.
Était bien, et puis Alex Baudin aussi, le tien. Et non, on a vu des Français encore, donc bravo à eux.
On va débriefer tout ça, mais messieurs, clairement, Pogacar était encore beaucoup trop fort aujourd'hui.
Oui. Paul Sexas toujours en quatrième position, calé dans la roue du maillot jaune. Jonas Vingegaard, il ne veut pas quand même passer devant Pogacar et Vingegaard, il sait où est sa place. Paul Sexas, mais en tous les cas, il est vraiment dans le haut du peloton. On est à 500 mètres désormais de la ligne d'arrivée, Pierre-Yves.
Est-ce que vous avez le sentiment que quelqu'un peut.
Ça accélère, là. Attention, c'est plus le même rythme, là, Pierre-Yves. Del Toro s'est dressé sur les pédales, il ne veut pas près de se rasseoir. On connaît la faculté du Mexicain de rester longtemps en danseuse. Là, l'accélération est très difficile et on le voit à l'arrière, ça se tend énormément.
Et oui, c'est dur pour certains coureurs. On a aperçu Skelmose qui avait le rictus, qui ne pouvait plus suivre. Ils sont une dizaine seulement à suivre le rythme d'Isaac Del Toro. Tadej Pogacar, le champion du monde, est dans sa roue. Ça s'étire.
Et dur pour Evenepoel, Evenepoel distancé.
Avec Paul Sexas, quatrième, qui serre les dents. Paul Sexas qui voit que ça s'accélère. C'est parti pour Tadej Pogacar. Le sprint est lancé, nous sommes à 200 mètres. Vingegaard est dans la roue, il ne peut pas. Il s'en joue déjà. Paul Sexas va essayer de tenir dans la roue de Vingegaard pour aller chercher éventuellement les accessites. Vingegaard est battu. Tadej Pogacar est facile. Il se promène, il ne fait pas de cadeau aujourd'hui. C'est pour lui la victoire pour Tadej Pogacar. Deuxième, Vingegaard. Troisième, Carapaz. Quatrième, Paul Sexas.
Alors messieurs, que Pogacar soit fort, ça on s'y attendait, mais qui gagne cette étape, Johan, c'était pas dans nos petits papiers.
Si, c'était dans un papier quand même, et on avait tellement d'espoir de voir l'échappée aller au bout avant le début de cette étape. On a vu que ça bataillait, mais plus ça bataillait, et on se disait que c'était un scénario possible aussi. Moi, je pensais qu'ils allaient laisser couler.
Je pensais aussi.
UAE, qu'ils allaient laisser couler dans le col de première catégorie. Mais finalement, en fait, ils ont été aidés. On va en parler. Ils ont été aidés un petit peu par la Visma qui a roulé pour protéger le maillot jaune de Jonas Vingegaard, qui a essayé de maintenir l'écart avec Alex Baudin, qui était le danger, qui aurait pu prendre le jaune à 1:30. Et en fait, ils ont laissé dans le jeu le peloton. Ils ont laissé dans le jeu surtout leurs rivaux, à savoir UAE. Ils ont laissé dans le jeu Tadej Pogacar. Et quand tu laisses moins de 2 minutes, moins d'1:30 à cette équipe-là, bah, elle veut aller gagner. Tadej Pogacar, il a offert la victoire à Isaac Del Toro hier. Là, il la voulait pour lui, évidemment. Il a des records aussi à aller chercher. Tadej Pogacar, il peut nous dire ce qu'il veut, mais les records, il veut aller les chercher. Il a 22 victoires désormais sur le Tour de France. Il a 122 victoires en carrière. Bah, c'est juste exceptionnel. Donc oui, c'était dans les petits papiers. C'était le scénario auquel on pouvait s'attendre. C'était le grand favori de cette étape, hein, avant le début. Si vous regardez les cotes sur les différents sites de Paris Sportif, c'est Tadej Pogacar le favori.
Donc on l'a pas cité parce qu'on espérait que le vainqueur, c'est davantage ça, Tanguy, peut-être.
Oui, je pense que c'est carrément ça. On espérait que ce soit l'échappé. Après, c'était une belle étape quand même malgré tout, hein, le sprint à la fin. On a eu un peu un bis repetita d'hier, finalement, dans une autre échelle. On a eu un petit sprint un peu dans le même scénario, mais... On n'a pas cité Pogacar parce qu'on voulait.
On voulait plus rêveur. Ludo, Johan en parlait. La Visma a essayé de contrôler, probablement pour protéger le maillot jaune de Jonas Vingegaard. C'est une erreur de la Visma. Il fallait laisser couler.
Oui, je pense que c'est une erreur. Ils auront d'autres choses à essayer de contrôler un peu plus tard. Mais là, il n'y avait pas vraiment d'intérêt, sauf faire plaisir à Vingegaard pour qu'il aille, qu'il prenne le maillot une troisième journée de suite. Mais franchement. Je pense que UAE, peut-être au début, parce que Pogacar disait après l'étape que ce n'était pas prévu. Donc, bon, j'entends ce petit refrain assez souvent, mais peut-être, non, mais j'ai presque envie de le croire là. Ce n'était pas prévu aujourd'hui. Donc, si la Visma met pas en route, peut-être que l'échappée va au bout.
On va l'écouter justement, Tadej Pogacar, tout de suite.
almost a victory for you, but this one is a real victory in it.
Hier c'était à peu près une victoire pour vous. Aujourd'hui c'est une vraie victoire.
I get some extra power, I think, in the final.
Oui, avec la victoire d'hier d'Isaac, aujourd'hui j'avais un peu une force supplémentaire dans le final aujourd'hui. Au milieu de l'étape, nous avons décidé qu'il était possible de gagner cette étape aujourd'hui. Donc je suis vraiment très heureux, l'équipe a parfaitement travaillé et j'ai fait un très beau final aujourd'hui. Vous montrez très très affamé, vous auriez pu laisser partir l'échappée, mais vous avez décidé de gagner cette étape. Non, je ne suis pas tellement affamé. Mais quand je peux gagner, je mets l'équipe et je gagne comme aujourd'hui. Nous avons essayé, nous avons tout mis en place pour gagner, nous avons gagné.
I don't know. I want to go on the rollers now.
You capture the yellow jersey.
Je vais aller sur les rouleaux maintenant.
Good news of the day.
Vous avez pris le maillot jaune.
To take yellow jersey
aussi l'autre bonne nouvelle du jour. Oui, de prendre le maillot jaune, c'est toujours un rêve pour tout cycliste.
For me, it's I know which time already, but every time.
Pour moi, ça fait plusieurs fois maintenant, mais d'avoir ce maillot sur les épaules, c'est toujours très spécial. Je ne sais pas pour combien de temps, mais je vais profiter du moment.
Tanguy, le peloton est sous la dictature de Tadej Pogacar. Quand il veut gagner, il gagne. C'est lui qui décide ?
Ou non ? Non, parce que là, ça rejoint plutôt ce que tu voulais dire du coup ce matin. Il y a eu l'occasion, parce que l'échappée n'était pas très loin, parce qu'elle a mis énormément de temps à se créer. Bah, il a saisi l'occasion, en fait, tout simplement. Après, oui, il a la capacité, avec le niveau de son équipe, de pouvoir choisir si on rentre ou si on ne rentre pas. Ça, oui. Par contre, si l'échappée, elle était créée après 10 km de course, qu'elle avait pris 5 minutes, ça n'aurait pas du tout été le même schéma. Là, l'échappée, elle a mis tellement de temps à se créer que finalement, ce n'était pas si compliqué de contrôler pour aller chercher l'étape.
On a un premier auditeur qui nous a appelé, c'est Félix Pouilly, ancien cycliste pro. Chez quoi, Van Riesel, chez Roubaix, Félix, c'est ça ?
Ouais, à l'époque, c'était Roubaix-Lille Métropole, ouais.
Bah, merci de nous appeler. Salut, alors, vous n'avez pas à avoir le niveau de Félix Pouilly pour nous appeler, hein, même si vous voulez balancer des saucisses, n'hésitez pas. Félix, tu as été surpris par le scénario de la course aujourd'hui ?
Non, pas vraiment. Après, c'est vrai que dans un premier temps, je pensais que c'était échappé avec Alex Baudin, qui était maillot jaune virtuel. Je pensais que ça pouvait aller au bout, que c'était le scénario qui allait être, qui était un peu écrit, parce que c'est un peu tôt pour les leaders, pour assumer les maillots jaunes, tout ça. Mais finalement, ça a mis en route derrière, et puis on a eu une explication à la fin. Donc, surpris, oui et non. Et puis après, surpris par la victoire de Tadej Pogacar, ça, pas vraiment, non.
T'en as pas marre de cette domination, de cette hégémonie? Hier, Tadej laisse gagner Isaac Del Toro. Maintenant, c'est lui qui tape du poing sur la table. C'est un peu toujours les yeux qui gagnent quand ils veulent gagner?
Ah ouais, bah oui, ça c'est sûr que dès que Pogacar a envie de gagner, à la pédale, il est intouchable, peu importe la configuration. Bon, hier, il a fait un cadeau à son coéquipier Isaac Del Toro. C'est sûr que sur ce Tour de France, pour moi, le suspense, enfin, il y a zéro suspense pour la victoire finale, sauf incident. Après, par contre, il y a une course qui est très ouverte pour le podium, et c'est ce qui va rendre ce Tour de France passionnant, parce que pour le podium, on a vraiment des protagonistes multiples, et puis on a une course qui va être très intéressante.
Et Félix, moi, je sais que t'es un...
C'est Tanguy Turgis qui te parle.
Je sais que t'adores Remco.
Je le reconnais.
Je sais que t'adores Remco. Est-ce que tu t'attendais pas à ce que... Parce que là, on l'a vu à la présentation des équipes, il paraissait prêt, il est affûté, il a eu un mois de préparation, changement d'entraîneur. Est-ce que toi, déjà, dans l'enchaînement Soudal Quick-Step qui quitte pour passer à Red Bull, tu t'attendais à une évolution? Et est-ce que tu n'es pas un petit peu déçu du niveau qu'il montre là? Alors, c'est quand même déjà performant.
Remco qui mais termine dans le fond du top 10. Hein.
Voilà, est-ce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il soit plus dans le game par rapport à Pogacar et Vingegaard?
Si, carrément. Sans comparer à Pogacar, le fait que tu vois aujourd'hui, il est placé, il est emmené parfaitement, il est placé dans la bosse. Plus c'est une bosse où tu as quand même de l'aspiration, ça monte vite. Le fait qu'il coince, et limite, c'est lui qui fait la cassure. Qui termine, je crois, il fait 8 ou 9e.
Il fait 8e derrière son équipier Florian Lipowitz.
Derrière Lipowitz.
Puis honnêtement, moi ça m'inquiète, mais c'est un peu dans la continuité de sa saison. Sa saison n'est pas mauvaise, mais sur les courses par étapes, sa saison est décevante. Et je pense que ce Tour de France peut être un tournant pour lui dans la tournure qu'il va donner à sa carrière, parce que depuis quelques années, il y a beaucoup de monde qui pense, et moi y compris, que c'est un coureur qui doit se destiner plus sur les classiques, tu vois, sur les classiques flandriennes.
Ça, merci, Félix.
En fait, ses qualités sont là. Le problème, c'est que c'est un coureur qui est tellement fort à la base. Fut une époque où il arrivait à gagner la Vuelta à 22 ans, à faire podium du Tour.
Le problème...
Je pense qu'il peut encore y arriver, mais en fait, c'est tellement de sacrifices, et peut-être que c'est contre nature.
C'est contre nature, mais il y a aussi, moi je trouve qu'il y a depuis deux ans, il mettait un peu la faute sur son équipe Soudal Quick-Step, ouais, qui lui manquait un truc. Allez, je pars à la Red Bull Borans Gros, qui va m'apporter le détail que n'a pas Soudal à m'apporter. Et en fait, il est comme l'an dernier. Donc finalement, Soudal Quick-Step faisait du très bon boulot l'an dernier, puisqu'il n'a pas la chose en plus, pour le moment. Hein,
et puis l'an dernier, il avait l'excuse, entre guillemets, il avait connu une grave chute pendant l'hiver. Là, cette année, il a eu un hiver parfait. Et assez tôt dans la saison, il a été décevant sur la première longue ascension de la saison, c'était à l'UAE Tour,
oui,
où on le voyait notamment, il était loin derrière un Ilan Van Wilder qui était dans son ancienne équipe, qui était son lieutenant en fait chez Quick-Step. Et c'est là qu'on j'ai commencé à me dire, mince, c'est bizarre. On se disait, c'est peut-être un accident de parcours, mais derrière, sur le Tour de Catalogne, sur l'arrivée au sommet, il n'était pas à son niveau. Alors que sur d'autres terrains, il excelle. Tu vois, Tour des Flandres.
Même s'il excelle. Même s'il excelle, même au niveau des classiques, il y a quand même des gars qui sont devant, puis avant Der Poel. Donc, il n'a même pas l'assurance de gagner sur les classiques. Donc ça devient très compliqué, je trouve, pour lui.
Et j'irai même plus loin sur les excuses, même hier en réalité. Parce que hier, il dit « je laisse exprès un petit écart pour être décollé et attaqué ». Mais UAE a la même idée et c'est Isaac Del Toro qui va. Là, on voit qu'il laisse un écart, mais c'est simplement parce qu'il est moins fort, Félix, aujourd'hui.
La première analyse que j'ai quand je vois les images, c'est pour moi, il loupe son virage. Je le vois en direct et je me dis « bon, il a loupé son virage et… » C'est pas étonnant parce qu'il est peut-être un petit peu moins technique que les autres.
Et Del Toro prend un virage magnifique.
Oui, à l'inverse.
Et c'est rédhibitoire dans une arrivée où tu arrives lancé comme ça. Si tu sors du virage 3-4 km/h plus vite, ça conditionne tout le reste de ta montée. Donc, moi, dans un premier temps, je me dis loupe son virage. Après, je vois son interview. Je dis ça m'a un peu étonné parce que sur l'image, j'ai pas eu l'impression qu'il
voulait. C'était volontaire.
Ouais, après par contre sa dernière montée hier, je me dis c'est rassurant parce qu'il vient faire 3 alors qu'il prend un sacré trou quand même,
oui,
après le virage.
Sa montée d'hier est plutôt... plus rassurante que celle d'aujourd'hui.
Là c'est lui qui pète, c'est lui qui fait la cassure derrière les tout meilleurs.
Et puis tu vois un mec comme Carapaz, si avant le tour tu me dis Carapaz, après Carapaz c'est un champion, je pense qu'il est quand même assez sous-estimé, mais par rapport à un mec comme Remco, un Remco qui arrive à 100% sur un Tour de France, sur une première arrivée difficile, pour moi, tu termines derrière Carapaz, c'est qu'il y a un problème quand tu t'appelles Remco Evenepoel, tu vois. Donc je pense que c'est vrai que le changement, la transformation ou les quelques pourcents qu'on pensait qu'il allait aller chercher chez Bora, c'est clair que pour l'instant, sur ce qu'on voit depuis le début de saison et sur ce début de Tour de France, force est de constater qu'ils ne sont pas là, quoi.
Tu le vois quand même sur le podium final, Remco ?
Mon cœur a envie de te dire oui.
La raison.
T'es comme Tanguy. C'est comme Tanguy qui nous dit c'est pour Romain Grégoire. Demain, ce sera pour Quentin Paché.
Non, mais t'as toujours envie. Hein. T'as toujours envie de t'imaginer des scénarios. Mais franchement, si aujourd'hui je dois mettre de l'argent, non, je le mets pas sur Remco. Ça, c'est une certitude.
Mais c'est quand même décevant, non ? Moi, je trouve ça. Ce que je vais dire, mais il est un peu retombé, je trouve, dans l'anonymat, parce que quand tu vois le parcours, je pense qu'il devrait tenter des choses aujourd'hui. Le classement général, moi, je pense qu'il faut carrément l'oublier.
Et après, il peut pas.
Sur quelle étape tu dis qu'il va gagner ? Sur l'étape sur le contre-la-montre, on l'attend, et il gagnera sans doute son étape. Mais après, le reste, c'est décevant. Il n'existe pas, en fait. Il existe quand ? Sur un Tour de France ?
Il peut pas exister.
Il est trop fort pour prendre des échappées, pas assez fort comme beaucoup pour battre Tadej Pogacar.
Dans ces cas-là, tente des choses. À 80 km de l'arrivée,
En fait, il n'a pas le punch pour tenter des choses. L'année dernière,
il a progressé quand même au niveau de la pointe de vitesse du punch, je trouve, Remco Evenepoel, par rapport au tout début de sa carrière.
Par rapport au tout début. Mais moi, ce qui me tue avec Remco Evenepoel. Rappelez-vous l'année dernière, alors je ne sais plus quelle étape c'est, il attaque et Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar se regardent et n'y vont pas. Et alors là,
c'était l'étape un peu
merci Félix, t'es plus incisif sur les réseaux sociaux hein, parce que moi je te connais pas mal sur Twitter.
Je sais plus mais il y a une étape comme ça et là, et c'est là où je me suis dit le déclassement même par rapport à ses rivaux, par rapport à Vingegaard et Pogacar. Alors rivaux, attention à l'époque hein, parce que maintenant c'est plus du tout des rivaux, ils sont plus dans la même course sur les grands tours. Moi je suis d'accord avec ce que disait Félix et je l'avais déjà dit dans le grand plateau d'ailleurs, mais nos amis belges n'avaient pas beaucoup apprécié, mais j'avais dit que Remco Evenepoel devrait arrêter les grands tours, devrait arrêter cet objectif-là de s'entêter avec un grand tour, parce que comme le dit Félix, il va à contre-nature, il n'est pas fait pour ça, et je pense qu'il n'en gagnera plus jamais un, et je ne parle même pas du Tour de France. Hein.
Pour gagner, classique alors, parce que ce sera face à Tadej aussi.
Oui, bien évidemment, mais là, il aura plus de chance, tu vois moi, je parlais juste avant le Milan-San Remo. Ouais. Quand je vois le Milan-San Remo, ce Milan-San Remo-là, évidemment, il est particulier parce qu'il y a Tadej Pogacar. Mais quand je vois Tom Pidcock capable de suivre Pogacar, moi, je pense qu'un grand Remco Evenepoel suit Pogacar.
Mais le bat au sprint ?
Normalement, oui.
Pourquoi pas ? Il est capable de le battre au sprint. En laissant Pogacar devant, Pidcock, ce Milan-San Remo-là, il doit le gagner tous les jours. Hein. C'est juste qu'il gère très mal son sprint. D'abord, il essaie d'aller dans les barrières, puis il se remet, donc c'est perdu. Mais je pense que ce Remco Evenepoel-là doit tenter juste après. Alors, je ne sais pas s'il m'a écouté, Remco, mais il tente le Tour des Flandres.
C'est sûr, sans doute. Ce serait une erreur de me changer.
Il tente le Tour des Flandres, il fait troisième. Évidemment, il y a encore beaucoup plus fort que lui. Mais un jour, peut-être qu'il n'y aura pas Mathieu Van Der Poel, peut-être qu'il n'y aura pas Tadej Pogacar, qui sont pour l'instant les deux seuls au-dessus de lui. Sur les grands tours, il n'y en a pas que deux au-dessus de lui. Il y en a 5, 6, 7, peut-être même 8. Hein, ouais.
Non, mais dans la redoute, c'est que ça, s'il est dans les roues.
Oui, mais sur le Tour des Flandres.
Moi, je te parle du Tour des Flandres.
Sur la moto, c'est impossible de rentrer.
Mais tu vois, sur
mais oui, voilà, il y a plein d'endroits où tu dis c'est impossible, en fait.
Ah bah oui, mais
c'est surtout que j'ai l'impression, parce que moi aussi j'aime beaucoup les caractéristiques de Remco, mais on a l'impression qu'il atteint un petit plafond de verre où au début, et pourtant c'est un coureur qui est très franc, qui cherche rarement des excuses, il a souvent et l'habitude
des excuses, arrête.
Oui, non mais il est ouvert.
C'était ma tactique, mais ils m'ont devancé alors qu'il était moins fort, mais il fait péter. L'année dernière, c'était la Quick Step.
C'est l'un des rares coureurs qui arrive envers les médias et qui dit noir sur blanc ce qui va pas et qu'il ose le dire.
Ouais.
Et du coup sur ça, ouais. Si, il le dit quand même. Mais par contre, l'an dernier, il avait tendance, enfin les années d'avant, à laisser en tout cas sous-entendre que c'est ce qui lui manquait quelque chose apporté par l'équipe.
Mais à vous écouter, j'ai presque l'impression que pour sa carrière, vous lui souhaitez pas un très bon Tour de France pour qu'il passe peut-être à autre chose.
Non, moi je souhaiterais qu'il y arrive à passer ce cap qu'il espère lui aussi passer.
Mais ce cap c'est quoi ? Bah Pogacar.
Bah déjà jouer avec eux. Là aujourd'hui, on parle pas de lui dans le duel.
C'est beaucoup fini. Trop tard.
On l'en parle en début de semaine, mais on est tous en train de se dire que dans 2-3 semaines, dans 15 jours, qu'il va avoir le petit coup de moins bien qu'il a eu depuis 2-3 ans en fait.
Merci Félix d'avoir été avec nous. Tu nous rappelles évidemment quand tu veux, hein, au 32-16, touche 9 pour rouler la libre antenne. Ton analyse est bien. Tu as ta place avec nous, hein, vraiment. Là, je compte sur toi pour les prochains jours. Tout de suite, on va accueillir Thierry qui nous a appelé. Je crois que c'était pour débriefer l'étape, c'est ça Thierry ?
Oui, bonjour.
Bonjour Thierry.
Salut.
Je suis très heureux de vous retrouver.
Ah, ça nous fait plaisir.
Très, très heureux, ouais. Oui, bon bah écoutez, mon diagnostic va être assez clair et précis. Hein. Bon, on a une équipe qui domine d'une manière incroyable, qui écrase quelque part déjà la course, on va dire. Donc je dirais que le suspense, bien, il n'y en aura pas. D'autre part, là on va arriver donc à la prochaine étape qui sera peut-être un petit peu intéressante, on va dire, qui est donc jeudi prochain.
Oh, il y a un programme quand même avant ça. Attends,
demain ce sera
demain c'est punchy.
Demain c'est attention. Hein.
Vous êtes sympa. Vous avez tous le moral.
Thierry, il y a un problème ou...
Ah non, il n'y a pas de problème.
Ah d'accord.
Ça t'énerve que tu aies des problèmes sur Denis Nothomb?
Non, moi j'essaye d'être le plus objectif possible, oui, c'est tout. Hein. Bon voilà, par certains côtés, excusez-moi, bon, je vais remémorer malheureusement de mauvais souvenirs, Mais ça me rappelle malheureusement un peu l'époque Armstrong. Hein. Excusez-moi.
Ah, il faisait pas voilà. Ça Armstrong.
Hein. Alors, je trouve que l'hégémonie est plus forte encore. Hein.
Armstrong n'était pas capable de gagner sur des étapes de puncher.
Ah là, impossible.
Ouais. En plus.
Je m'excuse, vous vouliez peut-être pas aborder ce.
Enfin, si, enfin, tu on est ouvert à
Thierry. Alors, Thierry, c'est chez toi.
Franchement.
Donc voilà. Non. Bah, je pense que voilà, on va avoir ce type de course. On aura peut-être quelques petites étincelles, mais bon, je voulais d'abord avant tout féliciter l'équipe Education First.
Oui, avec parce Alex Baudin, avec Carapaz.
C'est un petit peu les poils à gratter parce que quelque part, déjà l'année dernière, on s'en était aperçu avec Benji. Parce que voilà, si derrière ça ne décide pas de, on va dire, de contrôler, bon ben, ça leur permet de se mettre un petit peu en exposition et de pouvoir glaner quelques récompenses.
Je te sens un peu blasé quand même, Thierry, par ce tour. Bah, tu vas tout regarder ou vu la domination des UAE, tu vas aller à la pêche.
C'est-à-dire que je fais les deux. Mais
pas mal.
Ouais. Je fais ce que je voulais, vous dire, j'aime en règle générale, j'aime beaucoup le Tour de France et le cyclisme en général. Bon, maintenant, là, ce que je voudrais dire, je ne suis pas encore au stade d'être blasé.
OK.
Voilà, parce que, vous savez, il peut arriver n'importe quoi hein, sur la course. Hein.
Ah bah voilà, Thierry, mais c'est ça que je voulais entendre.
On a connu quelques anecdotes assez croustillantes de ce côté-là. Donc, voilà, donc il se pourrait quoi que ça remette en cause, par exemple, si, je sais pas, moi, Pogacar crève dans le Tourmalet, que Del Toro, ben, on lui dise, ben non.
On en est là, malheureusement.
Tu attends Pogacar, mais... parce que voilà, il va falloir du monde pour le ramener, entre autres. Hein. Bon, des exemples, j'en ai des tonnes. Bon, après, derrière, je pense que ce qui va être intéressant, c'est avoir dans les jours futurs l'évolution de Sexas.
C'est de lui dont l'étincelle peut venir. Tu parlais d'étincelle, c'est Paul Sexas qui peut allumer la mèche.
Moi, je pense que je vois plus. Alors, je le vois plus dans un cadre d'attente pour l'instant.
D'accord.
C'est-à-dire que il ne veut pas non plus se livrer. Il a raison. Hein, il essaye de voir un petit peu. Il jauge. Il est en train de se jauger là. Et puis on verra. Mais je pense que jeudi, ça va être en premier lieu un juge de paix. C'est-à-dire que vu le tracé.
Il y a le col d'Aspin et le Tourmalet, notamment.
Il n'y aura pas, comment dire, de faux semblants ou de. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, on verra bien qui c'est quel coffre ou pas. Donc déjà. Et puis, de la manière. Alors j'espère que ça ne va pas se finir en course de côte, que tout le monde va décider d'attaquer à 2 km du sommet parce que ce n'est pas la peine.
Tu crois qu'on peut anticiper face au UAE quand on voit McNulty, quand on voit Groschartner, quand on voit Nils Polite qui met une petite tape sur les fesses de Romain Grégoire en remontant des bidons, on peut vraiment anticiper face à cet effectif UAE?
Alors, moi je voulais simplement vous dire que ce sont les distances de course qui peuvent un petit peu déroger au scénario classique. C'est-à-dire qu'on peut avoir un incident quelconque. Les crevaisons, on en a eu, hein, en première, deuxième étape.
Thierry, de ton avis, dans ton opinion, c'est impossible qu'une équipe adverse mette en difficulté UAE. La seule chose qui peut faire perdre Pogacar aujourd'hui, c'est un problème mécanique, c'est un fait de course.
Ouais. Ils vont l'attendre.
Exactement.
Ou alors qu'il a un coup moins bien, comme on a connu il y a quelques années, d'un seul coup, parce que je ne sais pour quelle raison. Hein. Mais comme là, il n'est pas du tout entamé, il court, on va dire, au millimètre. Hein, et que là, il a encore une meilleure équipe que les autres années. Donc, de toute façon, je pense que, pour tout vous dire, moi, je pense que jeudi prochain, honnêtement, hein, il va assommer le tour. Voilà.
Ouais. Moi, dans ma tête, c'est possible.
Il va assommer le tour, il va mettre tout le monde à 3-4 minutes. Et puis,
ça, c'est beaucoup.
Et puis après, la deuxième semaine, et puis la troisième semaine, il mettra encore un petit coup de fouet, et puis terminé. Voilà. Et puis, il va arriver sur les champs pour faire encore. Tous les champs, entre autres. Mais l'abus de Montmartre, par exemple, bah, il sera là pour symboliser sa victoire globale. Et puis voilà.
Eh ben merci Thierry d'avoir été avec nous pour nous donner ton sentiment sur la course. N'hésite pas à nous rappeler, bien sûr, au 32-16, touche 9, t'es le bienvenu.
Je, Avec plaisir, avec un très grand plaisir.
Merci, merci Thierry. Messieurs, est-ce que vous avez été surpris par la tactique de la Décathlon CMA-CGM? On parlait de Paul Sexas. On avait entendu Julien Jourdi nous dire aujourd'hui, on ne vise pas grand-chose, on va plutôt être en stratégie défensive. Pourtant, Nicolas Prodhomme, il est parti à l'avant, il est allé très loin avec Alex Baudin. On l'écoute justement, Nicolas Prodhomme, et puis on réagit tout de suite après.
Ouais, c'était une étape où on savait que ça allait être une étape très très dure, surtout pour prendre l'échappée. Nous, on ne devait pas spécialement la prendre, mais être présent s'il y avait plus de 20 coureurs. On sentait que j'ai vraiment senti que la fatigue s'était très installée dans le peloton, parce qu'elle a mis vraiment vraiment beaucoup de temps à partir. J'ai bien géré, suivi le bon coup, plusieurs coups, mais dont le bon coup qui part. Et après, toujours, c'était dans l'objectif d'avoir un point d'appui pour Paul. Au sommet du dernier grimpeur, on a vu que l'écart n'était pas suffisant pour aller au bout parce qu'ils avaient senti que UAE était motivé pour la gagne. Donc, ils ont préféré me faire relever avec beaucoup de bidons. Paul fait 4 ou 5. Donc, de toute façon, si c'était pour se faire reprendre dans le dernier kilomètre, vu la vitesse où ça monte. Enfin, je suis content d'avoir contribué comme ça et je suis vraiment content de mes jambes.
Nicolas, il laisse rien, les cadors, notamment cette équipe UAE, pour les échapper.
Ouais, c'est sûr. Après, je pense que le problème, c'est que quand l'échappée est partie, c'était tellement dur que moi, j'ai vraiment bien géré mes cartouches et j'étais très bien frais. Mais en réalité, l'échappée était très fatiguée vu qu'elle a mis énormément de temps à partir et ça ne roulait pas si bien que ça. Moi, il fallait que je gère aussi mes cartouches parce que c'était vraiment dans l'optique d'aider Paul dans le final pour le placement ou pour des bidons. Donc, c'est sûr que UAE ont faim.
La volonté et la stratégie du UAE d'aller chercher cette étape-là, de ne pas laisser filer les échappées, est-ce que ça vous a surpris? Est-ce que c'est possiblement aussi frustrant quand on est devant?
Ouais, mais la consigne, moi, elle était claire dès le début, c'était pas pour jouer la gagne, sauf si j'étais vraiment devant. Après, j'y étais devant, mais l'écart n'était pas suffisant pour espérer jouer la gagne. Donc voilà, après, ils ont faim, mais mine de rien, ça coûte de l'énergie de rouler comme ça, donc on verra. Après, ils ont une équipe très 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 forte, mais voilà, nous, on est contents sur le plan du général pour Paul. Du coup, c'est des bons automatismes et tous les voyants sont ouverts.
Donc Tanguy, quand on fait attaquer Nicolas Prodhomme, c'est pas pour gagner l'étape, c'est pour protéger Paul Sexas. Ça te surprend ?
Je pense qu'il y avait le plan victoire d'étape quand même. Ouais. En fait, pour moi aujourd'hui, Décathlon, CMA, CGM ont très bien couru. Il y a juste eu peut-être la décision de faire relever Nicolas Prodhomme qui est arrivé un peu tardivement. Mais pour le coup, les décisions à la fin de l'étape, ils ont eu raison. Donc pour moi, ils ont couru très bien, c'est-à-dire que comme avait dit Julien Jourdi au début, on ne se focalise pas sur la victoire d'étape, ça a bagarré pendant 1h30. Donc je pense qu'à l'oreillette, ils ont dit « Bon, Nicolas, si tu te sens bien, tu peux aller suivre certains coups en étant malin. » Et finalement, il fait partie des coureurs qui ont pris l'échappée, qu'on n'a quasiment pas vu pendant 1h30. Alors il a dit, il a suivi plusieurs coups, parce qu'arriver sur une attaque hyette, ça aurait été exceptionnel. Mais pour le coup, il a très bien géré ses efforts. Devant, il a sauté plusieurs relais, parce qu'il gérait aussi, parce qu'il y a 21 jours, c'est aussi dans cette démarche-là. Après, il a suivi Baudin. Là, on peut se poser du coup la question, est-ce qu'il jaugeait? Et quand ils ont estimé vraiment que c'était impossible de gagner, ils lui ont dit, vas-y, relève-toi, retourne aux côtés de Paul, prends-lui des bidons. Il y a peut-être juste, si on doit aller titiller, l'optimisation, l'erreur, c'est ils auraient peut-être pu l'anticiper que l'échappée n'allait pas aller au bout 15 km avant. Et l'effort qu'il a fait pour revenir sur Alex Baudin était peut-être possible de l'économiser. Après, une fois qu'on est devant à ce moment-là, est-ce que vraiment, en tant que coureur, on peut pas essayer peut-être qu'il revient sur Baudin, derrière ça se relève. Ouais, donc ça. Du coup, je pense qu'ils ont attendu vraiment le dernier moment pour ce choix-là.
Ouais. Mais on est d'accord, si on avait eu 5-6 minutes d'avance, là, il aurait joué à fond sa carte.
Je pense qu'il aurait même potentiellement gagné.
Il était très fort, Alex Baudin aussi, mais on l'a vu notamment au moment du sprint pour la montagne, les deux se sont détachés assez facilement. Et on a entendu Nicolas Prodhomme, quand Alex Baudin attaque et donc s'isole, Prodhomme, il lui faut peu de temps pour revenir sur Baudin. L'attaque qu'il met derrière, c'est sûr que ça roulait moins vite dans l'échappée parce qu'ils étaient complètement épuisés, mais il revient très vite. Je pense que là, on a quand même... Moi, je suis rassuré sur l'état de forme des coéquipiers de Paul Sagan.
Richie Tello, par contre, en grande difficulté tout au long de l'étape.
Richie Tello qui a été en difficulté tout de suite. On verra si ça peut revenir, on ne sait jamais, pour la troisième semaine. Peut-être que finalement, Richie Tello, il a le temps. Alors, c'est
il doit y avoir une explication.
Il y a forcément une explication.
Ah, Richie Tello, il doit être malade.
Mais s'il est un petit peu malade, limite, Richie Tello, c'est pas grave. S'il arrive à tenir jusqu'en troisième semaine et que là, il retrouve 75% de sa forme, au moins, il pourra tenir avec Paul Sexas. C'est là où on va l'attendre, Richie Tello.
Mais
on va pas l'attendre
avant. Paul Sexas, on le mettait quand même devant, par exemple, un Carapaz dans la hiérarchie. On voit qu'il est derrière. Il est peut-être devant aussi d'autres hommes, hein, comme Remco sur cette étape. Mais est-ce que c'est inquiétant de voir, par exemple, un coureur comme Carapaz devant Paul Sexas pour Paul Udo?
Non, Carapaz, c'est un grand coureur.
Mais qu'on citait peu avant le départ.
Oui, mais il est là. Donc, on sait qu'il est capable, lui aussi, d'exploits, même sur un tour. Donc, après, là, moi je suis. Encore une fois, je ne partage pas l'avis de Tanguy, par exemple, sur Prodhomme. Même à l'entendre, en fait, on ne savait pas trop pourquoi elle était là, en fait. Parce que pas là pour gagner, pas là pour attaquer, pas là pour. Et moi, je trouve qu'il vaut mieux, dans ces cas-là, se réserver, garder des forces, parce qu'il a quand même, il a quand même utilisé des forces, il était devant, et ce n'est pas rien. Il faut, à mon avis, un coureur comme lui, surtout que Richie Tello est en grande difficulté, il doit rester pas loin de Sexas et point barre.
C'est vrai aussi. Après, c'est pour ça que dans l'analyse, je pense que la seule petite erreur qui rejoint ton analyse, c'est le moment où il décide de rejoindre Baudin, où la décision aurait pu être prise. Après, vraiment, quand il était dans l'échappée, il faudrait regarder une nouvelle fois que sa course.
Il roule pas si vite.
Il a dû suivre 4-5 échappées. Il a passé quasiment aucun relais.
Moi, je pense que c'est aussi du management.
Franchement, il n'a pas énormément perdu d'énergie à ce moment-là. Après, sur le coup de. Je reviens sur Baudin, sans doute un peu.
Ouais, je trouve que la Décathlon, se cherche depuis le début.
Mais oui, mais ça permet aussi à Nicolas Prodhomme, on lui dit, t'as joué ta carte aussi. Parce que si on avait pris 5-6 minutes, il faut aussi ménager un petit peu les intérêts individuels de ces coureurs.
Moi, j'ai pas envie qu'il joue sa carte.
Mais pour qu'il soit performant, pour qu'il soit fidèle, pour qu'il fasse des efforts, c'est ce qu'on disait avec Del Toro. On disait Del Toro, on s'achète un petit peu.
Je pense que Prodhomme est fidèle depuis
beaucoup. Oui, bien sûr. On rappelle que Paul Sexas lui avait laissé la victoire sur le Tour du Trentin, je crois.
Il a chez 2-3 autres victoires. C'est sa première victoire pro.
Elle a débloqué.
Peut-être que Sexas en aura besoin, et sans doute d'ailleurs à d'autres moments de la course. Et là, il sera bien plus utile qu'il parte dans un truc qui est là pour le inutile dans cette étape, parce que très rapidement, on s'est rendu compte.
Mais est-ce qu'on n'aurait pas reproché à Décathlon d'être trop attentif si jamais l'échappée s'était jouée devant?
On voit quelqu'un d'autre que Prodhomme. Moi, je préfère qu'il reste et qu'il.
Mais du coup, t'envoies qui?
Parce qu'ils ont lâché.
Ils ont les 2-3 plans sprint. Mais c'est le même débat.
C'est le même débat.
Sprinter, mais dans ce cas-là, n'y va pas.
Dans ce cas-là, comme ils ont voulu faire de base, on voyait personne. Voilà. Moi, je pense que c'est potentiellement ce que l'occasion s'est présentée. Il y était. Moi, le seul peut-être point qu'on peut reprocher, c'est la prise de décision qui a été tardive.
Mais on est quand même perdu énormément d'énergie. En réalité,
moi, je l'ai dit dès le début. Je pense que c'était quand même plutôt correct.
Je suis pas sûr qu'il ait lâché tant d'énergie que ça, Nicolas Prodhomme. Tellement il était fort. Et puis demain, je pense qu'il va pas. Ouais, mais il va pas t'enrouler.
Messieurs, Sylvain est avec nous au 32-16, touche 9. N'hésitez pas, évidemment. Sylvain, tu voulais réagir sur l'étape, je crois, toi.
Oui. Salut Sylvain. Salut tout le monde. Même sur le tour en général.
Oui.
Mais je sais que le tour c'est long, c'est que la troisième étape, mais on a vu que Pogacar allait quand même rien laisser. Il a mis son équipe au supplice quand même, parce qu'ils sont envoyés. Il a fait encore très chaud aujourd'hui sur le tour. Et je pense que les prochaines étapes, il fera encore aussi chaud, hein, parce qu'on voit que sur la France, en général, il fera aussi chaud sur ces trois semaines de tour. Et on sait qu'en troisième semaine, on a un Pogacar qui cale un petit peu. On se souvient que l'année dernière, il avait peut-être calé un petit peu au bout de la troisième semaine. Alors cette année, il a fait comprendre à tout le monde qui était le
petit calage. Hein, c'est une boîte automatique, ce calage quand même.
Oui, mais maintenant, j'ai coché même une étape à mon avis assez importante sur le tour. On ne sait pas tout de suite, hein, mais j'ai l'étape du Lioran, Aurillac-Lioran. Ça va être des routes très sinueuses, très compliquées. Je vois bien une grosse échappée arriver, enfin partir. Est-ce qu'ils vont être capables de contrôler? Comment vont être ses équipiers?
Tu penses que c'est une erreur, alors, d'avoir dépensé autant d'énergie côté UAE pour gagner 2-3 secondes en réalité et une étape, hein, quand même?
C'est le patron. Hein. S'il a dit, je veux le maillot jaune aujourd'hui, il y a été. Mais la Visma Elizabeth, qu'est-ce qu'ils ont fait, quoi? Et Vingegaard, je pense que sa deuxième place, je ne le vois pas deuxième à Paris. Entre hier et aujourd'hui, je vois on voit ses limites, et puis derrière il y a le petit Del Toro qui va pousser. Carapaz, on ne sait pas, mais attention à Vingegaard.
T'as cité Paul Sexas ou pas?
Oui. Voilà, je reste sautes. Sceptique. Trois semaines, c'est long. Trois semaines de tour, c'est très très long. C'est son premier jeu. Voilà, aujourd'hui, il a fait une belle étape. On verra demain. Voilà, c'est pris. Mais Paul, voilà, laissons le faire. On l'a pas vu de la journée. Personne n'a parlé de lui. C'est très bien.
Très bien.
Voilà.
Oui,
très bien.
Il fait quatrième. Mais alors, je suis d'accord avec toi. Je vais te rejoindre sur les limites de Vingegaard. Mais je mets. C'est tout relatif, c'est des limites par rapport à Tadej Pogacar.
C'est pas faux.
Sinon, c'est le deuxième meilleur homme de ce Tour de France, Jonas Vingegaard. Hein. Et c'est lui le meilleur des autres. Il fait deuxième de cette étape.
Tu sais, dans l'image, c'est marrant parce qu'on entend ce genre de choses. C'est-à-dire, Paul Sexas fait une très bonne étape, il est 4. Vingegaard fait une étape.
C'est pas non plus le même statut. C'est pas le même statut.
Il est dans le même temps après 3 étapes et on a l'impression que le mec, il est déjà 3 minutes.
Mais là où
c'est ça qui est fou, en fait. C'est que.
Ouais. On a la même analyse sur Remco qu'on est en train de dire qu'il a pas fait une bonne étape. Il fait 7e, il est encore devant
Sexas
au général.
Sur un terrain qui doit quand même privilégier normalement Remco Evenepoel et qu'il est même pas là. Donc lui, on peut penser qu'effectivement, et on sait que quand ça grimpe, ça va être compliqué pour le Belge. Alors que à l'inverse, Vingegaard, je suis désolé, on l'oublie. Alors parce qu'on a peut-être envie de l'oublier parce que c'est vrai que l'image d'hier, elle fait mal à tout le monde. Mais quand ça va grimper, peut-être qu'il y en aura un devant comme d'habitude. Et encore, moi je dis patience, attendons, on verra ce que la course va nous proposer, mais on verra qu'il y a 1 et 2. Il y a 1, 2 et le reste du monde. Et le reste du monde, on espère que ça sera Paul Sexas. Mais le 2, c'est Vingegaard. Et s'il y en a un, je veux quand même le dire encore une fois, s'il y en a un qui peut inquiéter Pogacar, c'est Vingegaard. Il n'y en a pas d'autre.
C'est que Jonas Vingegaard. Mais attention, c'est son équipe, moi, qui m'a inquiété. Ce n'est pas Jonas. Jonas, il m'inquiète juste par rapport à Tadej Pogacar. Il m'inquiète pour justement combattre avec lui. Parce que là, il sera soit très vite sur le sprint. Mais moi, c'est son équipe qui m'inquiète. Parce que pourquoi rouler? Pourquoi rouler et maintenir cet écart à 1,30?
Ouais,
je trouve que c'est
là,
complètement bête. Parce que ça a laissé l'opportunité à UAE de dérouler.
Parce qu'en fait, tu ne défends pas forcément le maillot jaune, parce que Pogacar, il le prendra si on arrive ensemble.
Tu défends un maillot jaune, mais pourquoi? Moi, j'aurais préféré qu'il laisse le maillot jaune. Ça aurait montré quand même plus d'assises, plus de charisme aussi de la part.
En se disant, c'est pas grave,
nous, le maillot jaune, on ira peut-être le chercher plus tard. Là, j'ai l'impression qu'on dit, on le garde parce que bon, on va le perdre et après, on le récupérera jamais. J'ai plus l'impression que c'est ça pour la Visma. Et ensuite, pourquoi Kuss roule dans la dernière ascension alors qu'il aurait très bien pu laisser Isaac Del Toro travailler depuis le pied? Ça aurait pas été le même sprint.
Non, là, je suis pas d'accord avec toi. Je pense qu'au niveau psychologique, ils avaient envie quand même. Et Kuss et Piganzoli de dire, attends,
Piganzoli
devant lui.
Piganzoli est mort. Piganzoli est derrière.
Non, mais quand même,
attention, Piganzoli a fait le Giro, je suis désolé, les coureurs
bien sûr,
le Giro me semble un petit peu en difficulté,
exactement.
J'ai peur pour Jonas.
Mais bon, pour moi, justement, j'aurais trouvé ça plus malin que Sepp Kuss se réserve, se mette dans la route Del Toro.
Après la domination d'hier, si tu laisses encore Del Toro
devant. C'est pas grave.
Mais
Visma a toujours été comme ça.
Je pense
c'est
que là, c'était bien qu'il montre qu'il est là. Bon, ça n'a pas duré longtemps. Mais non, mais c'est vrai qu'il montre qu'il passe devant Del Toro et quand même que les gars, ils sont là. C'est quand même la deuxième équipe du tour. Ils doivent se montrer.
Ouais, mais ils sont là, mais ils font le. Alors, Nicolas Prodhomme, il ne doit pas attaquer, mais il montre aussi que la Decathlon, ils sont là, qu'ils peuvent gagner l'étape.
Non, parce que tu démarres un tour avec un jeune coureur que tu dois protéger, pour moi, jusqu'au bout. Et tu pars pas dans des échappées qui n'ont aucune chance. Alex Baudin, je peux comprendre. Il joue sa chance, il joue le maillot jaune. Mais Prodhomme, il joue rien. Donc, à un moment donné, non, je sais pas, la comparaison,
je reviens sur ce que disait Sylvain, c'était intéressant, on n'avait pas forcément parlé. Est-ce que pour toi, Ludo, c'est une erreur de la UAE d'avoir, d'avoir roulé? Parce qu'on parlait d'erreur de la Visma, mais il gagne, il prend le maillot jaune, est-ce que c'est des erreurs?
C'est une erreur, et je pense que c'est un petit péché mignon de Vingegaard qui s'est dit, tiens, je vais le garder encore un peu, mais non, mais laissez-le.
Du UAE, je parlais UAE qui a roulé et qui a.
C'est
ce que disait Sylvain.
C'est une erreur des deux pour toi.
Des deux. Ouais. Je pense que oui, pour moi aussi, je comprends pas le fait de faire rouler comme ça, parce que c'est vrai qu'ils ont du coup dépensé énormément d'efforts.
Après, ça fait plusieurs Tours de France qui.
Ils savent faire.
UAE, ils savent dépenser l'énergie et ça passe, parce que Pogacar est super fort, il faut en effet pas qu'il ait de jours sans, parce que l'an dernier, son équipe, il y avait un ou deux coureurs, mais ils étaient vite.
Ils avaient Almeida aussi.
C'est vrai que ça part sur le même débat. Ils prennent tout ce qu'il y a à prendre. Et ça, dans le fond, c'est une mentalité de champion. Hein. S'il peut gagner, il va gagner.
Mais
par contre, faut pas que ça leur.
Faut pas que ça les lâche. Un jour, parce que personne n'oubliera ça.
Ouais, c'est ça.
Le fait que tu laisses jamais rien à personne, que tu aies une domination écrasante.
Ça fait deux ans
qu'on dit
ça.
Ouais, ou sur des étapes où tu n'as pas besoin, on verra. Mais pour moi, quand même, quand tu dépenses autant d'énergie. Pas pour rien, parce qu'il prend le jaune et qu'il gagne l'étape. Mais franchement, pour lui, c'est pas grand chose pour le coup. Et je pense que c'était pas utile.
Je pense qu'il a un record dans sa tête qu'il veut avoir aussi, Pogacar. Il l'aura dans 2-3 ans, mais c'est Cavendish.
Ouais. Et puis déjà, gagner 5 tours aussi, puis 6, puis 7, puis 8.
Oui, mais du coup, c'est les 5 tours, il peut les gagner quand même.
À la gestion.
Comme Froome en gagnant 2 étapes par an, lui, il veut en ayant bien 5.
Sylvain, tu le vois gagner combien de tours, Tadej Pogacar? Là, ce serait son 5e. Alors, on est qu'à la 3e étape, doucement. Mais tu le vois, tu vois l'hégémonie Pogacar durer encore des années et des années?
Il veut marquer l'histoire du cyclisme, tout simplement. Mais je pense qu'il a quelqu'un à côté de lui qui va prendre sa place. Et je reviens sur Vingegaard.
C'est Del Toro ou c'est Sexas à côté de lui dans son équipe ouais.
Ah ouais, devant Sexas
Non, je dis Del Toro, je vois bien venir chatouiller le patron qui est Pogacar, je ne sais pas, mais venir chatouiller Vingegaard pour la deuxième place, c'est la petite surprise, là, mais je pense qu'on a une belle génération.
On ne se connaît pas bien, parce que sinon je t'aurais parié un resto tout de suite, mais... Mais surtout, tu nous rappelleras.
Très bien. Alors Ludo, Sylvain, alors attendez, quels sont les enjeux du pari? Si Del Toro termine devant Jonas Vingegaard, Ludo t'invite Sylvain, sinon c'est l'inverse.
Tous les jours. Mais tous les jours.
Il n'y a pas de problème. Je connais un petit resto sur l'île de Ré. Il n'y a aucun problème.
Oh, sur l'île de Ré. Tu sais où je vais en vacances ou quoi là
Non, mais le petit Del Toro, voilà, je pense que la suite de Pogacar est assurée.
Il n'a pas besoin de suite, Pogacar. Il n'est pas dans ce mouvement-là. Là, il est en train de tout gagner. Il n'y a aucune raison qu'il s'arrête.
Déjà.
Je pense que là, il va en gagner 5. Il va en gagner au moins 6 pour dire voilà, je suis le seul à en avoir autant. Après, il ira se concentrer sur la Vuelta pour dire j'ai gagné les trois grands tours. Et après, il se concentrera sur Paris-Roubaix pour dire voilà, j'ai tout gagné. Moi, merci, ma carrière peut s'arrêter.
Il se concentrera d'abord sur Paris-Roubaix.
Oui, non, mais les deux sont faisables dans la même année.
C'est dans la même année. Et il le fera tous les ans. La Vuelta, je pense que c'est une option pour lui. Hein. C'est dingue. Hein. Évidemment, il veut gagner trois grands tours, mais je pense que s'il ne gagne pas la Vuelta, ça ne changera pas grand-chose dans sa carrière. Il la gagnera, mais on sait, je pense qu'il l'a gagné dans l'écurie.
Parce que la Vuelta ira la gagner. En faisant de grands tours avant.
Ah oui.
Il se prendra même pas la tête à dire je prépare que la Vuelta.
Dès que tu vas avoir un championnat du monde moins dur, c'est-à-dire où tout le monde peut gagner,
c'est l'année.
Il fera la Vuelta et là je pense qu'il n'y aura pas. Là ça va être tranquille même.
C'est ça.
Mais ça sera dans deux ans parce que l'année prochaine c'est en France et ça sera encore un parcours qui va arranger Tadej Pogacar, donc ça sera peut-être en 2028. Je pense que en 2028 il y aura beaucoup de choses pour Tadej Pogacar. Il y aura les Jeux, il y aura une Vuelta peut-être, il y aura Paris-Roubaix, il y aura peut-être l'ambition de faire les trois grands tours la même année. Il fait ce qu'il veut.
Et en 2028 on a un Français qui aura bien progressé, qui va
exactement
avancer. Moi je pense que celui qui peut le contrer, c'est Paul Sexas, et on l'espère tous de toute façon.
Oui. Merci Sylvain d'avoir été avec nous. Un petit pronostic peut-être sur l'étape de demain, t'as regardé? Parce que tu m'as l'air bien inspiré. Moi je suis tes pronos, je pense, plutôt que ceux de Tanguy Turgis.
Déjà, dans quelle forme vont être nos coureurs demain? C'est ça moi la question. Comment vont être les équipiers de Pogacar? La Visma aussi, est-ce qu'il va y avoir des échappés? Cocorico pour Alex Baudin, j'espère qu'il va nous défendre ce petit maillot à poids quand même. Hein. Bravo. Hein. Il aurait pu aller au bout, mais...
T'y crois, Baudin c'est vrai qu'il s'est battu
C'est un petit vent de fraîcheur que ça fait un bien de fou, mais moi j'y crois. Je pense qu'il peut... Voilà, il y a deux grosses étapes, je ne sais pas si c'est dans les Alpes où il y a 130 points quasiment.
Ouais, c'est dans les Alpes, il me semble, c'est la troisième semaine qui est très très chargée.
Voilà, je pense que là, je serai tranquille. J'attendrai les Alpes avec impatience et puis là, voilà, je prendrai le carton dans les Alpes.
Ouais, mais il va pas être tout seul parce que tu sais, il y a un coureur dont on parle pas, on le voit de temps en temps. Mais il est encore là aujourd'hui, il est là au classement général, c'est Lenny Martinez. Hein. Et moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Hein. Aujourd'hui, il a plus de temps faible. Il est là, il prend les points. Lui, il a dit qu'il voulait aussi le maillot à poids. Et au niveau des grimpeurs, faut pas se tromper. Lenny Martinez, il est devant Alex Baudin, il est devant énormément de coureurs.
Oui, mais il pourra pas jouer sur les
deux. Plus Lenny Martinez sera bien au classement général, moins il aura de chance de prendre le grimpeur.
Par contre, j'espère que nos trois coureurs français, Paré-Peintre, Baudin et Martinez, vont pas se partager les points à trois et que Pogacar vienne et qu'on fasse 2-3 gagnants.
Parce que ça, c'est un monde qui existe aussi. Poggi, hein, il a l'air de vouloir absolument tout gagner. Merci Sylvain, n'hésite pas à revenir nous voir, évidemment, au 32-16, touche 9, et le rendez-vous est pris pour le resto. Il y aura resto, en tout cas, entre Ludo et Sylvain. Merci à toi. Messieurs, justement, intéressant ce que nous disait Sylvain sur le maillot à poids. On n'avait pas cité Alex Baudin comme favori. On parlait de Richard Carapaz. Finalement, le classement général, ça va peut-être être l'objectif de Richard Carapaz. On parlait de Lenny Martinez. Il disait, c'est pas mon objectif, moi, forcément, mais on l'a vu quand même faire de gros efforts pour rattraper le peloton quand il était à 30, quand il était à 40 secondes. C'est un candidat crédible, Alex Baudin, ou ce sera trop juste?
Non, ce sera trop dur. Ce sera trop dur pour Alex Baudin, je pense, sur les grosses ascensions. Richard Carapaz, alors certes, il fait troisième, Richard Carapaz, mais il a eu une 45 déjà au général. Je pense que Carapaz, pour le coup, lui, c'est un vrai candidat. On l'a déjà vu vouloir aller chercher.
Il allait chercher un point, je crois, là aussi, en début d'étape.
On l'a déjà vu, Richard Carapaz. Donc moi, je pense qu'on aura un vrai grand grimpeur capable d'aller chercher ses points parce que c'est vrai, on parle beaucoup, on parle de Tadej Pogacar qui est capable d'aller, mais il n'y a que 5 arrivées au sommet sur ce Tour de France, c'est pas énorme. Et puis, c'est pas forcément des arrivées au sommet compliqué. Genre, par exemple, demain, c'est considéré comme une arrivée au sommet, mais c'est deuxième ou troisième catégorie, il me semble, Gavarni. C'est jeudi, pardon. Jeudi, pour l'étape où il y a Aspin et Tourmalet, Gavarni, c'est deuxième catégorie. Donc, il y aura plus de points à aller chercher pendant l'étape pour les baroudeurs sur Aspin et sur le Tourmalet. Donc, en fait, je pense que ça va jouer sur ça. Et là, ça va être un peu costaud, tu vois. J'ai du mal à imaginer Alex Baudin passer en tête en haut du Tourmalet ou sur les grosses ascensions.
C'est surtout, pour moi, il est trop tôt encore pour dire tel coureur joue le maillot à poids. Ouais. On est en train de faire des courses, des grimpeurs qui vont chercher un point, deux points, cinq points sur une première semaine où il y aura plein d'échappés, où il y aura 15 coureurs qui vont prendre deux, trois points. Je pense que la première réponse, on l'aura jeudi. Et je pense peut-être même qu'il y a des coureurs qui s'y intéressent pas forcément aujourd'hui, qui vont se retrouver dans l'échappée jeudi, qui vont prendre des points et qui vont en faire un objectif. Ouais. Donc, je pense qu'on peut attendre, jeudi avant de s'enflammer sur le maillot à poids.
Tanguy, tu es directeur sportif de la Groupama FDJ United. On avait aujourd'hui un profil, on pensait que ça convenait bien à Romain Grégoire. C'est une déception, on l'a vu rapidement en difficulté.
Au vu du scénario de course, c'est pas une déception. Parce que, bon, il aurait pu être là à la fin, mais on n'aurait pas gagné avec le sprint de Pogacar. Maintenant, oui, il a participé un peu au début, il était un peu plus discret. En fait, c'est une déception qu'il lâche dans la montée où il lâche. C'est-à-dire qu'on le voit lâcher vraiment physiquement. Si ça avait été un choix de « Allez, c'est fini pour aujourd'hui, je ne suis pas dans l'échappée. Si au mieux j'arrive, ça sera avec les champions Pogacar. Je me relève pour garder des forces pour les prochaines courses. » Ça n'aurait pas été d'une déception, au contraire, ça aurait été un choix. Là, on le voit qui veut passer, qui craque. Oui, on peut dire petite déception, mais pas de regret. On va dire ça comme ça.
Ouais. C'est vrai que là, c'était compliqué. En plus, ça montait très fort, trop fort. C'était quasiment des purs grimpeurs qui étaient capables de s'imposer. On le voit d'ailleurs sur les 10 premiers du classement général. Je pense que c'est 10 purs grimpeurs. J'ai plus la liste en tête. Mais c'est vrai que pour Romain, là, c'était bien plus compliqué. Pourquoi pas demain? Puis, c'est pas plus mal. Je pense qu'il perd du temps, Romain. Comme ça, il va pouvoir se glisser dans les échappées. Tu vois, une étape comme celle de demain, ça devrait lui correspondre sur le papier. Donc, il y en aura d'autres plus tard dans le tour. Mais je pense que c'est une bonne chose dans le malheur et dans
c'est
la sale journée qu'il a passée.
Qui nous inquiète un petit peu parce qu'on se disait que on voyait jouer un top 10 dans ce scénario-là, un top 15,
ouais,
peut-être.
Bien sûr, mais pas dans ce scénario-là, pas dans un scénario si compliqué. Voilà, il craque sur le col de première catégorie qu'il lâche.
Oui. Donc voilà. Ouais, mais il était passé par Nils Polite sans être de qui a un profil
plus sûr, mais bon.
Rouleur, mais UAE.
Oui, c'est ça, il faut porter.
Nicolas est avec nous, il a fait le 32-16 touche 9 pour nous parler, je crois, d'une satisfaction française à ses yeux aujourd'hui, Nicolas. Salut Nicolas.
Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien.
Oh, un accent chantant, ça me plaît ça.
Ah, évidemment, je représente le Sud-Ouest, en plus ça arrive bientôt à côté de moi le tour, donc c'était l'occasion de vous appeler. Je vais essayer de mettre un petit peu de baume au cœur, parce que là évidemment il y a un peu de frustration avec cette domination de l'UAE. Mais il y a une équipe où je vous ai pas entendu trop en parler encore dans l'émission, mais c'est Total Energy que j'ai trouvé.
Ah, t'as raison, belle satisfaction. Oui,
c'est vrai. Belle équipe avec de beaux coureurs.
Je les trouvais vachement du coup à l'attaque, notamment on a vu Matteo Verchet qui était pas mal à l'attaque, même s'il était un petit peu lâché, il lâchait pas, il revenait jusqu'au bout, on aurait pu y croire. Après il est accompagné aussi de Joris Delpoff qui est plutôt en forme, il a fait 3e aussi au championnat de France, donc peut-être que lui aussi sur des étapes peut-être comme demain il aura peut-être sa carte aussi. Donc voilà, c'est quand même une petite satisfaction pour une équipe française qui se sera bien montrée, une belle carte, même si ça a été compliqué quand même. On a vu avec UAE, quand Pogacar veut une étape, malheureusement il a, et donc je suis pas un grand
malheureusement
spécialiste.
Malheureusement il a, tu dis. Ah, t'es pas un grand, pas un grand spécialiste, mais en tout cas la vie est juste. Tu dis malheureusement pour Pogacar, t'en as un petit peu marre toi de l'hégémonie UAE.
Disons que voilà, quand moi je suis pas un spécialiste, mais quand j'aime bien les étapes où ça peut être un peu punchy, où ça peut être une bataille un peu devant pour des échappées avec différents coureurs, on se met un petit peu devant, il peut se passer des choses. Là, quand on a vu UAE du coup rouler, on s'est dit finalement on regarde, mais on sait que dans les 20 derniers kilomètres, il y aura plus vraiment de suspense et ça va se jouer entre les gros. Donc c'est ça qui est un petit peu dommage, mais bon, ils arrivent quand même à placer aussi G4 quand même dans le top 15.
Oui, t'as raison. Et ça complète toute leur course parce que ils font une très très belle course et ça aurait été dommage de pas avoir de coureur à la fin. Alors on parle d'une 14e place, mais ça prouve que même à la
sur le tour, quand tu vois les noms devant, c'est costaud.
Un coureur devant. Et oui, ce qui était impressionnant pour le coup aujourd'hui, c'est l'homogénéité de ce groupe. On a eu 5 coureurs vraiment de A à Z aujourd'hui. Et on en parlait que c'était des profils qui leur correspondaient, mais entre en parler et le faire, vu la course qu'il y a eu, bon, c'est pas super bien récompensé, malheureusement, mais ça donne envie de leur souhaiter de belles choses pour la suite.
Ils peuvent aller en chercher une, tu penses, aujourd'hui, quand on voit le niveau de forme, ou il en manquera un peu sur un plateau tel que le Tour de France ?
L'équipe Total Energy, ouais, ou Jordan Gigas ?
L'équipe Total, bon, je rappelle que ton frère court dans l'équipe Total Energy, donc je suis un peu surpris que tu me dises non, c'est impossible.
Moi, j'ai envie de te dire que tout le monde peut. À partir du moment que les coureurs essayent, que les mecs ils y vont, toutes les équipes peuvent. Maintenant, est-ce que les chances sont de leur côté ? Non, c'est être réaliste. Il y a plus de chances que ce soit d'autres grands noms qui gagnent. Mais l'attitude qu'ils ont eue aujourd'hui, c'est ça qu'ils vont faire, qu'ils vont potentiellement y arriver. C'est parce qu'ils essayent. Et aujourd'hui, je pense qu'ils se sont mis aussi dans un état de confiance à se dire les gars, on peut le faire, on faisait partie des. Parce que la course a été vraiment dure. On a des coureurs que. On a parlé de Lenny Martinez qui était lâché au début pour un problème mécanique, mais dans son groupe.
Qui n'a pas été attendu, quand même.
Oui, mais il y avait des coureurs comme Alaphilippe qui, après, sont revenus pour attaquer. Eux, ils n'étaient pas lâchés, les coureurs de Total Energy. Ils étaient devant en train de faire la course à ce moment-là. Donc, il faut continuer. En tout cas, c'est avec cette attitude-là qu'ils vont finir par y arriver, s'ils y arrivent. Et je leur souhaite.
Et puis on se rappelle aussi que Verchil avait quand même de l'expérience, il a déjà fait podium il y a 2 ans aussi, donc...
Exactement, puis c'est un coureur qui a été aussi champion de France chez les jeunes, donc la pression d'une fin de course, là il l'a déjà connu avec une arrivée avec Kwiatkowski et Kampenaerts il y a 2-3 ans.
C'était Kampenaerts.
C'est des coureurs qui paraissent jeunes et qui ont quand même une petite expérience et qui ont envie, en fait, tout simplement.
Mais à quelle fin alors ? Parce qu'ils font la course, mais c'est quoi ? C'est pour se montrer ? C'est pour gagner.
On le voit dans l'attitude aussi de Matteo Verchi tout à l'heure. Quand il y a des coureurs qui attaquent, il s'est accroché pour essayer de basculer et d'y être. Ils le savent que ce n'est pas les meilleurs sur la course. Ils savent que pour y arriver, ils vont devoir se faire mal, qu'ils vont devoir avoir plus envie et y croire. Si ils n'y croient pas, déjà, c'est impossible.
Non, le fait qu'ils y croient. Pour gagner, tu t'enflammes un peu, je trouve.
S'ils y croient pas, ils peuvent pas gagner.
Non, mais t'as raison. Mais après, je trouve qu'il y a un gap, et je le dis même pas pour te faire plaisir, mais Anthony Turgis, oui, il a déjà gagné.
Ouais.
S'il part lui dans un bon coup, moi j'y croirais le premier. C'est-à-dire que je me dis oui, il peut gagner.
Après,
il peut y aller.
Turgis gagne cette étape des Chemins Blancs, c'était il y a deux ans.
Trois.
Je pense que jamais on met une piécette sur Turgis.
Il y a une personne qui a mis une piécette à l'antenne, non ? Justement, Bradley Wiggins.
Ouais, c'est vrai en plus.
Sur leur podcast avec Lance Armstrong et Incapi. Il était en train de célébrer, il avait dit Turgis. Et l'heure d'avant, il a dit Turgis. Armstrong, il a regardé, il dit c'est qui ce mec ? Et pourtant, il l'a dit.
Il est magistral.
Il l'a dit.
Cette course,
et donc, du coup.
Ah non, mais il est très malin.
Et quand tu l'as fait une fois, je suis désolé, tu peux le refaire. Donc,
mais complètement. Mais ce qui me plaît beaucoup, moi, dans l'attitude de la Team Total Energy aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas froid aux yeux. Ils y vont. C'est la meilleure attitude pour y arriver. Mais bien sûr qu'ils ne sont pas favoris, je l'ai dit. Les chances ne sont clairement pas de leur côté. Mais s'il y a 1% de chance, c'est comme ça qu'ils arriveront à le saisir.
Quand tu as déjà gagné, encore une fois, je trouve que. Déjà, on ne te regardera pas de la même manière. Et puis, si Anthony Turgis se retrouve avec 3-4, je pense qu'il a une chance d'aller gagner.
Nicolas, tu es optimiste sur les chances françaises. Alors, tu m'as dit que tu n'es pas spécialiste, mais en tout cas, tu as eu un sacré coup d'œil pour l'équipe Total Energy. Tu es optimiste pour le Tour de France de nos Bleus, on va les appeler comme ça ?
Y a quand même de belles cartes. Hein. Comme vous en parlez tout à l'heure, on n'a pas vu Romain Grégoire non plus. Est-ce que demain, ça peut être une belle étape, justement, pour Anto, Turgis, du coup, de s'imposer ? Demain, on va espérer quand même que UAE contrôle un petit peu moins et qu'il laisse une échappée. Si on revoit la Total Energy devant, ça peut être une bonne chose aussi. Ouais. Non, il peut y avoir aussi Alex Baudin, comme vous disiez aussi, par rapport au maillot à poids. Donc, non, il y a quand même de belles cartes. Hein. Ça peut être des choses sympas. Pour le Texas, c'est toujours aussi son premier Tour de France. Donc,
peut-être Vauclin demain, peut-être un Vauclin, je ne sais pas.
Tu m'as remonté le moral, Nicolas.
Donc, ça serait bien pour lui, ça lui ferait ce serait une belle satisfaction parce qu'il a eu une crevaison, il me semble, à la première étape. Il a eu quelques petites galères mécaniques. Donc un peu, ça serait bien pour Vauclin, mais voilà, on a quand même on a cité de beaux noms pour les Français. On peut suivre avec intérêt, en tout cas, ces étapes-là, et on espère qu'aussi Paul peut remporter peut-être une grande étape dans un col de montagne.
Et rappelons que le contingent français cette saison, c'est la deuxième ou troisième nation. Ça joue.
On est une trentaine. Ouais. Mais il y a de la qualité
derrière les Belges. Non, mais pas forcément en termes de nombre, en termes de qualité sur la saison 2026, notamment avec les victoires en World Tour. Il n'y a pas beaucoup mieux que les Français. On n'a pas parlé de Godon, exactement. On est sur une saison assez incroyable de la part des Français.
Merci Nicolas, n'hésite pas. Moi, tu me fais une petite promesse, tu nous rappelles en cas de victoire française. Alors, si c'est la Total Energy, t'es même obligé. Ça marche, Nicolas ?
Bah avec plaisir, mais demain soir, alors du coup, pour survivre.
Parfait, à demain Nicolas. Merci à toi, n'hésitez pas, évidemment, si vous voulez participer à Roue Libre, à la libre antenne sur 100% route, la radio digitale RMC, pendant le Tour de France, 32-16, touche 9, et vous êtes évidemment avec nous. Ludo, je me tourne vers toi, Nicolas nous a parlé d'une victoire de Turgis demain, ça ressemble à quoi l'étape de demain? C'est pour l'échapper?
Oui, on verra. Mais en tout cas, c'est une très très belle étape entre Carcassonne et Foix. On a 181 km 900 avec des prises au vent dès le départ. On a plusieurs des cols hein, de 4e, 3e et 2 de catégorie. Bon, le dernier est assez loin quand même de l'arrivée. Mais quand même, on ne sait jamais. Ça va faire des gros écarts. 6 km 9 à 6,6%. Quand même, le col de Montségur. Donc là, ça pourrait faire des écarts. Et voilà, c'est une étape, encore une fois, accidentée, où il va falloir être très fort. Et bon, sur la fin, ça descend plus, il y a du plat. Mais en tout cas, il faudra passer ce col déjà, être bien placé. Et oui, il y aura des échappées. Et il faudra être, moi, je pense, très costaud quand même demain. Ce ne sera pas un rigolo qui va les gagner. Hein. Franchement, il va falloir être très, très fort.
Victoire en échappée, tu penses, Tanguy, demain?
C'est plutôt favorable aux échappés quand même, hein, malgré tout. Et en vrai, encore comme aujourd'hui, ça va dépendre de ce que décident les grosses équipes et de la tournure que prend le début de course. Après, il peut y avoir plusieurs solutions, mais je dirais ouais, 60% échappés, 40% peloton. Ou, enfin, quand je dis peloton, je m'entends sur un petit comité.
Ouais. Bah moi, je pense que ça serait une victoire en échappée demain. Je pense que l'UAE n'a pas envie de garder le maillot, que ça ne les intéresse pas et que... Que de toute façon, le final n'est pas difficile. Donc là, on ne peut pas s'attendre à ce que Tadej aille chercher une victoire. Donc moi, je m'attends à la première victoire des échappés pour ce Tour de France.
Victoire française, messieurs, possible demain. Anthony Turgis, ça m'a l'air un petit peu dur pour ton frère Tanguy. Nicolas est très sympa. Hein, il voulait parler des Total. Il travaille peut-être dans l'encadrement Total.
Mais Anthony, c'est compliqué. Je pense que c'est trop dur pour mon frère demain. Par contre, on dit les Français de manière générale, quand on partait du parler de la qualité. Hier, on met 3 coureurs dans le top 10. Aujourd'hui, on a 3 coureurs dans le top 15, avec beaucoup de Français qui ont été dans l'échappée. Hein, Alex Baudin, Nicolas Prodhomme, qui sont les deux. On va y arriver cette année, je pense, à avoir des étapes. J'en suis intimement persuadé.
On n'a pas encore vu notre dernière petite merveille. Donc, je pense qu'il est bien, il se cache bien. Moi, j'ai entendu son discours à l'arrivée, j'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'il est vraiment bien dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il fait. Donc, je pense que ça promet énormément pour Paul Sexas.
Il a très bien couru pour moi aujourd'hui. Ouais. Parce que hier, on a analysé sa performance, il fait 9e. Mais il a eu un problème mécanique avant. Il ne faut pas l'oublier. Voilà. Là, aujourd'hui, course sans accro, pas un effort de trop. Il a fait une petite craquante dans les 50 derniers mètres où Richard Carapaz vient lui prendre les bonifications. Mais franchement, aujourd'hui, il a couru comme un top 3 du Tour de France.
Il est dans le temps de Jonas Vingegaard. C'est le troisième homme.
C'est le troisième homme.
Richard Carapaz l'enlève un petit peu, mais c'est le troisième homme parmi les favoris.
Quand ça va grimper, il sera peut-être avec les deux autres. Donc franchement, il est très très bien.
De ce qu'on voit là, j'ai l'impression que voilà, il y a peut-être Tadej qui s'extirpe un peu, mais s'il n'y a que un qui arrive un peu titiller Vingegaard, ça pourrait être Paul Sexas.
Ouais, bien sûr.
Dans le bilan français, il y a un coureur dont on n'a pas parlé, pourtant c'est un rouage essentiel de la Visma, c'est Bruno Armirail qui est tombé. C'est peut-être eux en réalité les gros perdants, parce que oui, UAE a fait des efforts, mais il y a peut-être Sepp Kuss qui est tombé, mais on l'a vu en pleine forme dans le dernier kilomètre. Johan, ça vient un petit peu noircir le tableau côté français, parce que Bruno Armirail, c'est quand même un super coureur, c'est un peu l'équivalent de Nils Pollitt chez UAE dans le dispositif, de Pipo Ganna chez Ineos.
Bah, côté français, si on s'attend à une victoire d'étape, non.
Oui, mais, t'as raison.
Pour Jonas Vingegaard, oui, ça va être un coup dur dans la plaine, et même quand ça monte légèrement, parce que Bruno Armirail est un sacré coureur, un sacré rouleur, il finit dans le groupe étoile à 36 minutes, donc il a pu se relever. On va voir ce que ça va donner, parce que demain ça va piquer, peut-être le surlendemain ça va être pire. Donc on va voir ce que ça va donner. Ça sera un coup dur pour Jonas Vingegaard. Ce ne sera pas non plus le plus gros coup dur. Il aurait pu perdre plus gros, Jonas Vingegaard, même si Armirail sera important. Mais s'ils n'ont pas les clés de la course et qu'ils laissent ça à UAE, bon, sera moindre mal, on va le dire comme ça, même si.
Ça t'enlève peut-être une carte. On a déjà pas Wout van Aert, mettre un coureur à l'avant avec des grosses capacités de rouler.
Je pense le classement final.
Oui, après, attention, Almira, il va sans doute récupérer aussi. Il n'est pas non plus perdu pour le Tour de France. Il est tombé, on va voir comment il récupère.
Il est bien tombé quand même.
Mais peut-être que dans 3 jours, il est bien et puis ça recommence, c'est reparti.
Donc demain, si on avait un nom, allez, je vais commencer comme ça, je vous laisse un petit peu réfléchir. On fera évidemment toute la preview de l'étape, toute l'analyse demain à midi dans le prologue sur 100% route. Je vais citer Quinn Simons, messieurs, rapidement.
Dorian Godon.
Ouais. Johan.
Abrahamsen, je vais rester sur un coureur du NoX.
Ben O'Connor.
Oh, alors là, c'est vraiment la grosse cote, parce que Ben O'Connor, j'ai l'impression qu'il va un petit peu.
Ben O'Connor,
il est à l'arrêt.
À fois.
Merci, messieurs, en tout cas, pour cette belle journée vélo. Vous avez été absolument parfait. Tout de suite, ça continue, bien sûr, sur 100% route, la radio digitale RMC pendant le Tour de France. Merci à Cyprien Bétou à l'édition. Merci beaucoup à Coralie à la prod. Et tout de suite, ça continue avec l'After Tour.
RMC 100% route, roue libre.